Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
RFI, grand reportage, Xavier Besson.
C'est un plan de grande envergure que le gouvernement israélien vient d'annoncer. Il veut faire avancer les projets de construction de 2500 logements dans les colonies en Cisjordanie, en plus de 600 autres appartements à Jérusalem déjà approuvés dimanche. Deux projets condamnés par les Palestiniens pour qui la colonisation est un obstacle à la paix. Le Conseil de sécurité de l'ONU est aussi de cet avis. Fin décembre, il a adopté une résolution réclamant la fin totale et complète de la colonisation. À Jérusalem, que les deux parties revendiquent comme capitale, plus de 230 000 Israéliens vivent au-delà de la frontière de 1967, celle qui reste reconnue internationalement. Alors peut-on toujours envisager un partage de la ville dans le cadre d'un éventuel accord de paix ? Jérusalem, le rêve de deux capitales est-il encore possible ? C'est un grand reportage de Guilhem Delteil.
En ce début de soirée, beaucoup d'habitants d'Anatar rentrent du travail. Mais difficile de circuler dans ce quartier de Jérusalem-Est, les rues sont étroites, les routes défoncées. Alice vit ici en famille depuis 42 ans. Dans son salon, la télévision est allumée. Cette arabe israélienne regarde les informations en français et commente l'actualité avec sa sœur, Juliette, venue lui rendre visite.
Ils doivent d'ailleurs s'entretenir par téléphone ce dimanche soir. La correspondance à Jérusalem de Syrie.
Cela fait deux ans que Juliette n'est pas venue à Anata. Elle habite dans un autre quartier de Jérusalem-Est et venir chez sa sœur est compliqué, dit-elle, car bien qu'administrativement rattachée à Jérusalem, cette partie de la ville se retrouve de l'autre côté du mur érigé par Israël, le long de sa frontière avec la Cisjordanie. Et sa sœur Alice abonde, cette séparation éloigne le quartier du reste de la ville.
On est perdu ici. C'est-à-dire ni Jérusalem, ni territoire.
Ni territoire occupé parce qu'il n'y a pas. On dirait que j'habite dans un camp de Shuafat.
Le camp de Shuafat, c'est un camp de réfugiés palestiniens situé à quelques encablures d'Anata. De l'un comme de l'autre, pour gagner les autres quartiers de Jérusalem, il faut désormais passer un checkpoint. Un obstacle qui complique les déplacements urbains.
Si je veux arriver au travail à 7 heures, je dois sortir de la maison à 6h15. Et dimanche, parfois, quand je vais aller à la messe, je dois sortir de la maison à 9h15 pour arriver juste à l'heure. Je dois sortir avant l'heure, 3 quarts d'heure, 1 heure. Mais avant un an, c'était très, très difficile. Parce qu'il faut que l'autobus passe vide, sans personne dans l'autobus. Alors tout ce qu'ils ont dans l'autobus, il faut qu'ils passent comme nous sommes passés par...
C'était pendant l'intifada qui a été non.
Ah oui, c'est...
La chaleur, des vieux, des malades, tous descendent.
On va attendre une heure et demie, devant nous peut-être 50 personnes, 100 personnes, 150, on va attendre jusqu'à...
Au loin, une fumée monte dans le ciel. C'est un feu de déchets. À Anata, les ordures ne sont pas ramassées, dit Alice. Elles jonchent le sol. Cela rajoute au sentiment d'abandon des habitants.
Parfois, on dit, qu'est-ce qu'on va faire ici ? Ça m'est égal, je veux aller à un autre endroit. Je veux vivre bien. Comme ma sœur me dit, pourquoi vous êtes là ?
Oui, mais il y a qui ont quitté, ta belle-sœur a quitté.
Elle est descendue à Jérusalem, oui. Elle a eu peur de rester ici pour des...
Marie est aveugle. Alors, ils ont dit qu'Anata va être pour territoire.
Pour territoire occupé. Alors, elle a quitté.
Prendre la fuite d'un quartier que ses habitants craignent de voir rattaché à la Cisjordanie, ce qui compliquerait leur accès à Jérusalem. À l'opposé de la ville, au sud, l'arrondissement de Gilo offre une toute autre image, moderne, propre et ouvert sur la ville qu'il domine. Pour les Israéliens, c'est l'un des nouveaux quartiers de Jérusalem. Pour le droit international, en revanche, c'est une colonie bâtie au-delà de la frontière de 1967. Mais Ofer Ayoul, le président du conseil de Gilo, un élu du Likoud, le parti conservateur du chef du gouvernement, rejette cette qualification. et la résolution de l'ONU condamnant sa présence sur ce terrain.
Gilo is like Paris.
Gilo, c'est comme Paris, comme New York ou comme toutes les villes du monde. C'est un quartier qui fait partie de Jérusalem. Regardez combien de voitures circulent ici, combien de personnes passent ici. C'est comme toutes les rues de toutes les villes du monde. C'est là le cœur de la question. Je voudrais que les membres du Conseil de sécurité de l'ONU viennent ici pour voir. Ce n'est pas comme si nous étions perdus sur une montagne, qu'il fallait conduire une heure et que vous arrivez, vous voyez un bâtiment et vous dites « Ah, c'est une colonie ». Non, non, ce n'est pas ça, Jérusalem.
Gilo a été construit en surplomb de Beit Tzafafa, l'un des quartiers arabes de Jérusalem. 40 000 personnes vivent là désormais, des juifs dans leur très grande majorité. Mais la construction de ces logements n'empêche pas l'expansion du quartier palestinien, assure Ofer Ayoul, pointant du doigt des maisons en cours de construction de l'autre côté de la route. Pour lui, l'entente est même très bonne entre les deux communautés.
I'm going to their home to drink coffee, to eat.
Je vais chez eux pour boire un café ou prendre un repas. Et eux, ils viennent chez moi. Dès que nous avons le moindre problème, on se réunit. Il y a des gens qui veulent créer des tensions. Mais dès qu'un problème émerge, on se réunit et on réfléchit ensemble aux moyens d'y remédier. Et on réussit. Vous savez pourquoi ? Eh bien, parce qu'on sait se parler, tout simplement.
And we succeed. Why ? Because we know to talk.
Ce matin-là, Ofer Ayoul a rendez-vous avec un employé municipal sur un rond-point situé à l'entrée de Gilo. Il veut faire flotter un drapeau israélien sur cet axe de circulation. L'élu considère que Jérusalem est la capitale indivisible d'Israël, mais il défend une ville ouverte à toutes les communautés et il assure que sa démarche n'est pas une provocation.
I think that it makes us, you know, a union.
Je pense que c'est ce qui nous unit. Je sais qu'il est très difficile pour les Palestiniens de voir ce drapeau. Mais je pense qu'avec le temps, ils seront fiers du lieu où ils vivent, d'Israël, du fait que nous vivons tous ensemble, que nous nous respectons. Ce drapeau, c'est quelque chose qui vous rend fier de ce que vous êtes.
Gilo, c'est précisément le point de départ des visites qu'organise Yaniv Mazor. Ce guide touristique ne s'intéresse pas au site de la vieille ville. L'histoire dont il parle est contemporaine. S'il commence ses visites à Gilo, c'est parce que le mur de séparation passe juste derrière. Et pour Yaniv Mazor, c'est un élément essentiel pour comprendre les politiques menées aujourd'hui à Jérusalem.
Je pense que vous pouvez faire des choses merveilleuses avec ça. Ils peuvent déconnecter des quartiers palestiniens entiers de la ville et inclure dans cette ville des colonies israéliennes. Et quand vous regardez la démographie de l'agglomération de Jérusalem en fonction de qui se trouve de quel côté de la barrière, eh bien cette barrière a changé beaucoup de choses. Je pense qu'elle est souvent utilisée comme un outil politique et démographique.
I think that the barrier is often used as a political tool and as a demographic tool.
And we are right on the scene here between Soubaher.
Du sud au nord, le bus conduit le groupe de touristes le long du mur de séparation. Yaniv Mazor fait traverser des colonies, des quartiers palestiniens et s'arrête à plusieurs points de vue. Il évoque le tracé du mur, les politiques de développement des infrastructures qu'il estime conçues pour les colons et la difficulté pour les Palestiniens de Jérusalem de pouvoir construire leur maison.
La population palestinienne à Jérusalem a augmenté. Elle était de 66 000 en 1967, lors de l'annexion. Elle est de plus de 320 000 aujourd'hui, près de 40 % de la population totale de la ville. Et personne ne leur propose de solution de logement. Vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de terrains libres ici. Il y a assez d'espace pour le développement, mais dans le plan urbain de Jérusalem, ils sont considérés comme des zones vertes interdites à la construction. Donc, si vous êtes propriétaire de ce terrain, là, vous ne pouvez pas demander un permis de construire. Les terrains dont les Palestiniens n'ont pas été expropriés pour construire un quartier juif et qui ne sont pas une zone verte représentent environ 14% des terres.
Bonjour.
Au pied de la vieille ville, sous le mur des Lamentations et l'esplanade des mosquées, se trouve le bassin historique de Jérusalem. C'est là que la ville aurait été fondée par les Cananéens. C'est là aussi que se serait trouvé le palais du roi David, le monarque juif qui a fait de Jérusalem sa capitale. Ce site historique se trouve en plein cœur d'un quartier palestinien aujourd'hui, mais il est exploité sous le nom de Cité de David par une organisation juive, Elad, qui a un objectif précis, estime Yonatan Mizrahi. Il est le directeur d'Emek Shavé, une ONG qui lutte contre l'utilisation politique de l'archéologie dans le contexte du conflit israélo-palestinien.
Ces pierres sont les preuves dont nous avons besoin pour montrer que notre histoire est ici. Ce que vous voyez là est une partie d'une structure qui date de l'époque cananéenne. Mais au-dessus de la structure cananéenne, nous avons une structure judéenne. Des éléments d'une structure datant du 8e siècle avant notre ère. Maintenant, ces preuves archéologiques montrent que les Cananéens étaient ici, que les Judéens aussi. Et à d'autres endroits, vous pouvez voir des périodes hellénistiques, romaines, toutes les périodes que vous voulez, peu importe. Ce qui compte, c'est quelle couche vous mettez en avant. Puis vous arrivez, vous dites, toutes les couches existent, mais la nôtre est la plus importante parce qu'elle montre que nos droits historiques sont là. Parce que les Romains ne viennent pas réclamer leurs droits ici. Les Grecs ne sont pas importants, les Cananéens ont disparu, mais nous, nous sommes là.
Elad mène des fouilles archéologiques, organise les visites, mais se bat aussi pour que des familles juives viennent revivre au plus près du site. Les quelques bâtiments qui entourent la cité de David sont aujourd'hui habités par des Israéliens, comme quelques autres un peu plus loin.
Il n'y a pas plus de 3000 colons dans les quartiers palestiniens de Jérusalem-Est. Ils sont même 2800. Mais ils ont des centaines de milliers de visiteurs qui viennent visiter le site historique et qui les identifient comme partie intégrante de Jérusalem. Ce que je veux dire, c'est qu'au bout du compte, la question sera comment peut-on trouver une solution pour Jérusalem ? Tout le monde parle des colonies et c'est un sujet important. Mais au bout du compte, la question est de savoir si le public israélien voudra entamer des négociations ou sera prêt à des concessions. Et les colons essayent de créer une situation où pour les Israéliens, ce sera inacceptable. C'est un outil très puissant. Donc même si c'est une petite colonie, le site touristique en fait une colonie très puissante et prépondérante.
So even if it's a small settlement, the whole touristic site makes it very powerful and very dominant settlement.
Sollicité par RFI, Elad n'a pas souhaité répondre. De l'autre côté du quartier de Silwan, dans un des dalles de rue étroites, quelques bâtiments arborent un drapeau israélien. Là aussi, des organisations privées ont racheté des immeubles dans le but d'y installer des familles juives. L'un d'entre eux vient d'être rénové, mais une famille palestinienne occupe toujours l'un des appartements. L'affaire a été portée en justice, mais elle fait face à une pression au quotidien des nouveaux propriétaires des lieux, affirme Zouher Rajabi, l'un des représentants des habitants du quartier.
Les enfants ne peuvent pas se déplacer. C'est aussi très difficile pour leur mère. Vous pouvez voir avec tous ces gravats partout. Et ils essayent de leur fermer la porte au nez. C'est très dur. Les enfants et la famille ont de grandes difficultés à entrer et sortir de chez eux.
Sur son téléphone, Zouher Rajabi montre des photos et vidéos d'accrochages récents entre des jeunes du quartier et les gardes de sécurité israéliens des bâtiments rachetés. Au total, une centaine de familles palestiniennes pourraient devoir être contraintes de déménager.
À Silwan, comme dans toute la ville, ils essayent de se débarrasser des Arabes. Ils disent que Jérusalem est seulement pour les Juifs, qu'il ne peut pas y avoir d'Arabes ici, qu'ils doivent les faire partir. Il y a beaucoup d'organisations comme Elad et Ateret Koranim qui tentent de les exproprier. Et le maire de Jérusalem, Nir Barkat, détruit des maisons arabes tous les jours. 3 ou 4 maisons par jour qui n'avaient pas reçu de permis de construire. Mais d'un autre côté, on peut voir Beth Yonatan qui n'a pas de permis non plus. Il y a une décision de 2010 qui demande la destruction de 2 étages, mais il ne l'applique pas. En revanche, pour les Arabes, Barkat détruit les maisons. Cela montre qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans l'État. Le gouvernement soutient les colons pour récupérer les maisons arabes.
Zuhair Rajabi est lui-même menacé d'expulsion, mais il veut croire qu'un jour, Jérusalem sera la capitale de deux États. Une perspective menacée par cette présence juive en plein cœur de quartiers palestiniens, estime pour sa part Betty Hirschman, directrice plaidoyer à Iramim. Cette organisation israélienne se bat contre le développement de la colonisation à Jérusalem.
Ça ne pourrait pas être plus dangereux pour les Palestiniens en termes d'impact sur leur vie, sur leur quartier, sur leur attachement à cette ville. Ils doivent constamment prouver que Jérusalem est le centre de leur vie. Et si ce n'est pas le cas, ils seront bannis de la ville. Donc de toute évidence, un impact très fort sur les Palestiniens, mais aussi sur une solution à deux États. Car si on établit une réalité sur le terrain avant les négociations, il sera de plus en plus difficile de négocier sur cette zone. Et bien sûr, dans le cadre d'une solution à deux États, nous savons que Jérusalem doit être la capitale d'Israël à l'ouest et de la Palestine à l'est.
C'est en plein cœur du centre-ville commerçant de Jérusalem-Ouest que Daniel Louria nous donne rendez-vous. Il est le directeur d'Ateret Koranim, l'une des organisations qui rachète ces immeubles. Le terme de colonisation, il le rejette catégoriquement, rappelant que cette partie de Silwan a été construite pour des juifs yéménites à la fin du 19e siècle.
Si je représente un juif d'Amérique, du Mexique ou d'Australie, pourquoi ne pourrait-il pas acheter? Surtout si c'est dans un ancien quartier juif. Selon le droit international, une personne déplacée a le droit de revenir chez elle. Nous allons au-delà de ce que dit le droit. Nous achetons des lieux dont nous avons été déplacés. La loi donne des droits, mais nous allons au-delà. Des Arabes vendent et l'argent change de main.
Ateret Koranim possède également une école religieuse juive dans le quartier musulman de la vieille ville et des immeubles sur le Mont des Oliviers à Jérusalem-Est. Mais là aussi, pour Daniel Louria, il ne s'agit que d'un retour sur des terres ancestrales.
Le monde ne réalise pas qu'il y a une centaine d'années, le quartier musulman d'aujourd'hui était le principal quartier juif. Il y avait 21 synagogues, 6 centres d'études hébraïques, c'est un quartier juif. Nous avons plein de droits, légaux, moraux, éthiques et historiques, de vivre n'importe où. Surtout si un arabe veut vendre et qu'un juif veut acheter. Donc oui, aujourd'hui, il y a un millier de juifs qui vivent dans l'ancien quartier juif. D'autres vivent sur le Mont des Oliviers. Et alors ? C'est le plus ancien cimetière juif au monde. Nous avons des juifs aussi qui retournent à l'ancien village yéménite. Vous pensez que cela m'importe que ce soit aujourd'hui un quartier arabe appelé Silwan ? Les arabes ont chassé les juifs de là-bas. Les juifs ont le droit de revenir vivre côte à côte avec les arabes.
Cette proximité aujourd'hui crée des tensions, Daniel Louria le reconnaît, mais selon lui, la responsabilité des violences incombe aux Palestiniens.
Vous avez une atmosphère qui n'est pas propice à créer la paix, et elle ne le sera jamais, à moins que l'autorité palestinienne cesse de baptiser des places au nom des terroristes, que le Hamas change sa charte, à moins d'une acceptation totale de l'État juif et d'un changement des programmes des écoles. Oui, certains veulent vivre en paix, mais ils ne comptent pas malheureusement. Et nous sommes obligés de mettre des gardes de sécurité. Vous pensez que le gouvernement aime avoir autant de gardes et des escortes de sécurité pour les enfants? Vous pensez que j'aime dépenser de l'argent pour construire des terrains de jeu sur les toits parce que les enfants ne peuvent pas jouer dans la rue? C'est absurde. C'est mon pays, le pays juif, et je suis forcé de mettre un espace de jeu sur le toit à cause de la haine, de la terreur et de l'intolérance arabe.
Daniel Louria prévient, nous ne plierons pas, assure-t-il, mais en tant que juif religieux, il dit prier pour une Jérusalem qui vivrait en paix, une Jérusalem ouverte aux Palestiniens, prêts à reconnaître qu'ils vivent en Israël. Jérusalem, le rêve de deux capitales est-il encore possible ? Un grand reportage de Guilhem Delteil, réalisation Ludivine Amado.